Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors bonjour, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc aujourd'hui nous avons comme invité Carlo Carmagnola qui va se présenter, qui travaille à Météo France. Bonjour Carlo.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Du coup je me présente en quelques mots.
Oui, présentez-vous en quelques mots.
Exactement, donc moi je travaille à Météo France, en particulier au Centre d'études de la neige qui est basé à Grenoble. Et je m'occupe de recherches sur la neige, et notamment dans le cadre des domaines skiables. Donc je coordonne une équipe qui fait des simulations pour anticiper les conditions d'enneigement sous les pistes de ski. Et on va un petit peu parler de ça aujourd'hui, entre autres.
Alors, on va parler beaucoup de ça. On va parler de cela, alors plus sur les Pyrénées que sur les Alpes, parce que Montpellier, puisque Divergence est à Montpellier, est beaucoup plus concerné, disons, par les Pyrénées. Ça ne nous empêchera pas de parler de vos recherches sur les Alpes également. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement difficile. Vous le savez, bien sûr, pas de pluie, pas de neige, une sécheresse qui poursuit sa course dans les Pyrénées-Orientales. Et cette saison, d'ordinaire, l'Aigoual est blanc, majestueux, et là, il est encore vert. Alors, bien sûr, les premiers impactés sont les villages, qui fondent toute leur économie sur la neige et le tourisme, un secteur économique très important dans les hautes montagnes, mais également l'un des plus vulnérables au changement climatique. Alors, on sait que le ski va devenir de plus en plus coûteux du fait de l'impact climatique. Et ça, les économistes nous le disent un petit peu de manière unanime. Alors, des solutions coûteuses pour les stations, il y en a bien sûr, mais certaines sont menacées et elles ne sont pas toujours durables. À haute altitude, on verra qu'on pourrait bien sûr utiliser toujours plus de neige artificielle, mais ça fera grimper les tarifs. Tandis que les domaines qui sont à plus faible altitude, plus familiaux, sont voués, eux, à complètement disparaître de la carte du ski alpin. Donc, confronté à des températures qui ont été surréalistes en janvier, puisqu'on a frôlé dans ces régions des 24, 25 degrés en raison de la situation anticyclonique, eh bien, les stations des Pyrénées ferment des pistes de ski les unes après les autres. Donc, on va écouter justement un de ces témoignages.
Les stations de ski vont-elles disparaître en Europe avec le réchauffement climatique ? C'est la question que tout le monde se pose après la publication de cette étude. Pour ça, les chercheurs ont pris les données de 2234 stations de ski présentes dans 28 pays européens. Elles ont réalisé des projections avec deux scénarios différents. Un à plus 2 degrés au niveau mondial et un autre à plus 4 degrés. Dans un scénario à plus de 2 degrés, 53% des stations de ski devraient faire face à un risque très élevé de manque de neige. Mais dans un scénario à 4 degrés, ce serait 98% d'entre elles, soit la quasi-totalité. La solution serait-elle donc d'utiliser de la neige artificielle ? Eh bien oui et non. En fait, ça limiterait les risques, mais la neige artificielle a elle aussi ses propres limites. Déjà, elle ne sera pas très efficace pour les stations de sport d'hiver situées à basse altitude ou trop au sud. Ensuite, sa fabrication nécessite de l'eau et de l'énergie. Or, s'il faut de plus en plus de neige artificielle pour combler le manque de neige naturelle, ça veut dire plus d'eau et plus d'énergie, ce qui contribue au réchauffement climatique.
Alors, avant d'entrer dans le cœur de vos recherches, dont nous parlerons tout à l'heure, parce que c'est bien sûr le cœur aussi de cette émission, de savoir ce qui va se passer demain. Essayons de réagir un petit peu à ce que nous venons d'entendre. Donc, on nous dit finalement, la neige artificielle qui permettait aujourd'hui un peu de cacher, c'était un peu le pansement qui a été utilisé par les stations, ça va devenir de plus en plus difficile. Vous en pensez quoi ?
Déjà, cette étude, c'est nous qui l'avons faite, c'est-à-dire c'est notre équipe qui l'a réalisée. Donc ça a été en particulier Hugues François, qui est un collègue d'INRA, et je vous appelle là maintenant depuis son bureau. Donc ça tombe vraiment bien. Et c'est une étude qui est sortie il y a quelques mois et qui a beaucoup fait parler. Donc les médias nous ont beaucoup contactés suite à la publication de ces résultats. Donc les résultats principaux ont été un petit peu résumés, c'est sûr que c'est un article assez long, assez complet, et l'un des plus intéressants, c'est en effet le fait que aujourd'hui les stations, si on prend la France en moyenne, sont équipées à peu près à 40% de leur surface par la neige de culture. Nous, nous avons étudié dans cette
40%, étude... 40% de la surface, c'est énorme.
Exactement. C'est énorme, alors, tout est relatif, mais c'est déjà beaucoup. Si on compare avec les autres pays alpins, c'est quand même beaucoup moins. C'est-à-dire l'Italie est équipée à peu près à 85%, la Suisse à 70%, l'Autriche à 80%. Donc la France est équipée à 40%, ça veut dire qu'elle est quand même beaucoup moins équipée que les pays voisins, pour des raisons historiques et aussi des raisons climatiques. Mais l'idée, c'est que dans l'étude, on a simulé ce qui se passerait en s'équipant à 50% et aussi à 75%. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une valeur ajoutée faible à passer de 50 à 75, parce qu'une fois qu'on a équipé certaines parties du domaine skiable, et ben aller plus loin en couverture en neige de culture n'apporte pas la même valeur ajoutée. Donc ce n'est pas une solution magique, parce que bien sûr, il faut avoir les températures et l'humidité. Donc
on va revenir bien sûr sur ce sujet, mais on dit que pour fabriquer par exemple 2 mètres cubes de neige de culture, il faut environ 1 mètre cube d'eau. Pour 1 hectare de piste, il faut 4000 mètres cubes d'eau. Donc, c'est énorme. Et comparaison, la consommation annuelle moyenne d'eau pour un ménage de 4 personnes est de 150 mètres cubes. Or, l'eau devient de plus en plus précieuse. Donc, est-ce qu'on va continuer, surtout dans des régions comme les Pyrénées, où on sait qu'on a un stress hydrique extrêmement important, à pouvoir utiliser cette neige de culture ?
Alors du coup, en effet, avec 1 mètre cube d'eau, on ne fait pas exactement 2 mètres cubes de neige, parce que ça, c'est vrai seulement s'il n'y a pas de perte. Il y a toujours entre 30 et 40% de perte dans la transformation eau-neige, due à des facteurs mécaniques et thermodynamiques également, donc évaporation, sublimation et perte à cause du vent. Donc en fait, avec 1 mètre cube d'eau, on fait 1,6 mètre cube de neige, quelque chose comme ça. Donc le ratio 1-2 est vrai seulement si on simplifie beaucoup les choses. Et aujourd'hui, si on regarde, il faut entre 2000 et 4000 mètres cubes, en effet, pour équiper 1 hectare de piste de ski. 1 hectare, un étang, 100 fois 100 mètres, donc une surface de 100 fois 100 mètres de large. Donc ça, c'est un petit peu les valeurs. Alors, il faut toujours relativiser, c'est-à-dire que au niveau global, les quantités dont on parle ne sont pas énormes. Exemple, aujourd'hui, la totalité de toutes les stations de France, donc Alpes, Pyrénées, Massif Central, Vosges, Jura, Corse, consomment un petit peu moins de 40 millions de mètres cubes par an. Donc 40 millions de mètres cubes par an, c'est moins de la consommation pour les piscines privées françaises. Et c'est... on ne parle pas des piscines publiques. Hein, on parle
oui, mais vous oubliez que donc, tout le monde...
Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
Allez-y, allez-y.
Donc ça, du coup, en termes de quantité... Quand on parle de millions de mètres cubes à l'échelle nationale, donc si vous discutez avec quelqu'un d'EDF, par exemple, il ne va même pas vous parler, parce que si ce qu'on turbine, ça parle plutôt c'est les milliards ou les dizaines de milliards de mètres cubes dont on parle. Donc si on est sur quelque chose de millions ou quelques millions, à l'échelle nationale, ce n'est pas comparable avec l'eau potable, avec l'agriculture, avec l'industrie. Donc globalement, si on regarde à grande échelle, la neige de culture n'a quasiment pas d'influence sur les consommations nationales d'eau. Par contre, le problème, c'est qu'il faut se mettre dans des conditions un petit peu locales, ça veut dire sur des périodes où il peut y avoir un stress hydrique, sur des régions ou des vallées ou des endroits spécifiques où l'eau peut être peut manquer, où il peut y avoir du coup des conflits d'usage. Donc l'idée, c'est d'arriver à étudier au cas par cas.
Et alors, si on peut également, merci donc pour ces précisions, mais il faut également peut-être faire un peu du systémisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le tourisme, il n'y a pas que la neige, tout le monde demande cet accès à l'eau, c'est-à-dire que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme, on sait que ces impacts de retenue collinaire peuvent avoir des impacts sur le circuit de l'eau lui-même.
Absolument, absolument. Donc il faut voir ça dans un contexte beaucoup plus ample. Et c'est vrai qu'un usage de culture est juste un élément, et parfois même le plus important, on va dire, par rapport aux usages futurs. Vous avez cité l'eau potable, l'agriculture, qui sont deux sources majeures. Et donc l'idée, c'est de les étudier ensemble. Nous, on est vraiment sur ce sujet-là aujourd'hui. Sur une étude pilote dont les résultats sont publiés en mars.
Donc sur l'étude globale, quoi. Vous êtes plus
exactement.
Sur... D'accord.
Là, on sera sur l'étude globale. Parce que
mais ça, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'avant...
Absolument.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est venu à cause du GIEC? C'est venu comment?
Alors, les études climatiques, on va dire, de base, qui fournissent des projections climatique, de l'enneigement et des paramètres climatiques, ça veut dire la température, les précipitations, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis quelques années, notamment dans le contexte de domaine skiable. On a lancé la version actuelle des études en 2020 et on a couvert à peu près 200 stations, dont la plupart des stations des Pyrénées. Et vous avez cité le Mont Aigoual avant, on vient de terminer l'étude sur Prapéro, donc la station de ski du Mont Aigoual. Donc ça veut dire que sur cette partie, on va dire, climat-neige, on a déjà, en ce temps recul, une certaine vision globale de ce qui va se passer dans les Alpes, dans les Pyrénées et dans les autres massifs de montagne français. Ce qui est récent, parce qu'on atteint un petit peu la limite de ce que les modèles sont capables de faire, mais on y arrive petit à petit, c'est l'extension de cette méthodologie pour la prise en compte explicite de l'évolution hydrologique à l'échelle d'un bassin versant des disponibilités d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire à une station, dans 30 ans, pour que tu arrives à sécuriser tes pistes, il te faudra, disons comme ça, augmenter de 50% ta consommation d'eau. Parce qu'autrement, tu n'auras pas assez de neige naturelle pour pouvoir exploiter. Alors, la question, c'est est-ce que ce 50% d'eau de plus qui est demandé pour que la station puisse rester, entre guillemets, en vie, et sera disponible? Et notamment, elle sera disponible au bon moment, parce que la neige de culture, il faut la produire à certains moments de la saison, notamment entre décembre et janvier. Et donc, il faut voir si à ce moment-là, il n'y a pas d'autres usages qui vont rentrer en conflit avec tout ça.
Alors, donc, avant d'en arriver là, peut-être, et oui. Avant de parler de la deuxième partie, finalement, de vos interventions, c'est-à-dire comment demain faciliter peut-être la transition, comment l'engager, etc. Écoutons justement encore un témoignage de Champs-Rousses, cette fois, où les élus mettent en place des retenues collinaires pour gagner un peu de temps.
On aura des années chaotiques. Voilà, il y aura des années où il va tomber une surquantité de neige et puis des fois on en aura beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est ce qui va nous permettre de tenir dans le temps une quinzaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années supplémentaires pour l'exploitation et pour l'activité ski.
Des stations de ski en sursis à plus ou moins long terme. À Champs-Rousses, on a donc décidé d'investir dès maintenant des millions d'euros sur l'été.
Alors un projet avec notre tyrolienne, la plus longue tyrolienne du monde à pylône. On est à 1700 mètres, on a encore de la chance, mais c'est juste reculer le temps. Et tout ça fait partie de ce qui nous permettra de survivre dans les années à venir.
Survie économique et écologique. Champs-Rousses a obtenu le label Flocon Vert qui récompense les stations engagées pour un tourisme durable. Mais en bas de la vallée à Grenoble, selon ces militants associatifs, la montagne brûle. Et les domaines skiables regardent encore ailleurs.
Quelqu'un qui nous dit « Ouais, c'est super, on a mis une dameuse à hydrogène », on ne peut pas lui dire « C'est pas bien, c'est comme un pansement ». Voilà. Sauf que la dameuse à hydrogène, pour de vrai, elle ne va pas changer du tout notre rapport à la montagne.
Mountain Wilderness encourage les stations à revoir tout leur fonctionnement, avant qu'il ne soit trop tard.
Si on attend le bout du bout, mais putain la violence que ça va être! Mais donc maintenant, ne pas engager maintenant les efforts de transition, c'est irresponsable. Ouais.
En fait, en montagne, il faut vraiment voir le tourisme comme une industrie. Et du coup, là, on parle de reconversion industrielle. Et je pense qu'il faut le penser comme tel. Alors, moi, je suis originaire des Hauts-de-France, il y a eu la reconversion des mines. Il y a eu une crise sociale et un choc de l'emploi. Peut-être que là, on sait qu'on peut anticiper, justement, engager la transformation. Allons-y et attendons pas de face au mur.
Alors, effectivement, cette transition, on la vit un petit peu partout. L'interlocutrice nous parlait effectivement de la fin du bassin minier qui a su se reconvertir aujourd'hui. On pourrait parler de ce qui nous menace, enfin de ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur la crise des paysans. Donc on a des situations finalement qui sont en train de se métamorphoser, de se transformer. Et au cours de vos études, donc bien sûr, vous établissez un constat, on vient d'en parler, on aura des années chaotiques, on aura de moins en moins de neige, on aura, etc. Il faudra prévoir peut-être en transition un petit peu de réserve d'eau. Mais comment est-ce que vous travaillez, comment vous insufflez finalement aux élus de montagne la nécessaire transition?
Ouais, donc ça, c'est un petit peu notre démarche depuis quelques années. Vous avez cité le cas de Charousse. Là, je suis face au sommet des pistes de Charousse. Et mardi prochain, je pourrais...
Quelle chance!
On aura... oui, c'est très beau, même si ça manque un peu de neige, mais ça, on va y arriver. Donc, mardi prochain, on aura la restitution officielle de l'étude climatique Kingston qu'on vient de faire sur Charousse. Donc, je peux pas encore vous dévoiler les résultats parce que, il faut les présenter tout de suite, pas tout d'abord aux commanditaires, donc la mairie et l'exploitant de la station de Charousse. Donc globalement, comment on travaille? Donc l'idée de Klimsto, c'est pas compliqué, mais c'est un ensemble d'étapes méthodologiques qui nous permettent d'arriver à proposer des résultats qui sont à l'état de l'art de ce qu'on peut faire aujourd'hui en recherche scientifique. C'est pas parfait, il y a des limites, il y a des incertitudes, comme dans tous les modèles, mais nous, on se doit pour chaque étape de garantir au niveau scientifique une certaine rigueur et d'utiliser le mieux qu'on puisse faire au niveau mondial par rapport à nos capacités. Donc tout d'abord, on prend les modèles du GIEC qui étaient cités, c'est-à-dire les grands modèles qui prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre, les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on les prend. Météo France, où je travaille, est l'un des contributeurs nationaux du GIEC. Donc les modèles dont on parle dans les médias du GIEC, c'est les mêmes qu'on utilise côté Klimsto pour les stations. Donc on est en phase avec les dernières évolutions à ce niveau-là. Le problème de ce modèle, c'est que c'est des modèles globaux. On les appelle des GSM, modèles de circulation globale. Et donc ils sont du coup très coûteux en termes de calcul. Et donc on les fait tourner grâce au supercalculateur qu'on a à Toulouse, donc des grosses machines. Et ensuite, ils ont une résolution spatiale qui est assez grossière, puisque là, on parle de domaine skiable, mais la résolution de ces modèles à la base est de 150 km.
Oui, donc on n'est pas sur la petite station, quoi.
Absolument pas, mais on n'est même pas sur la grande. Ouais. On voit pas grand-chose à cette échelle-là. Donc toute la méthodologie un petit peu cachée derrière cette étude, c'est de faire des zooms intelligents. Nous, on les appelle des étapes de descente d'échelle.
Mais on a par exemple sur l'Université de Montpellier un travail qui est mené sur les petits satellites. Ils n'aident pas davantage?
Alors, il peut y avoir, pour initialiser l'état initial des données à observer, satellite ou au sol, ou radar ou autre. Par contre, quand on parle de projection à long terme, ça reste entièrement du modèle. On ne peut pas, par définition, avoir des observations dans le futur. Donc, on n'utilise que des moyens numériques de calcul en simulant les phénomènes principaux de l'atmosphère, les flux océaniques, le couplage atmosphère-océan et les conséquences de tout ça sur la neige. Et donc tout ça, en fait, la stratégie, c'est d'arriver à zoomer, comme je disais, de la façon la plus intelligente possible, en prenant en compte justement ces observations qui définissent l'état initial de notre système, planète, et ensuite de donner ça en entrée d'un modèle de neige, parce que tout ce que le GIEC nous propose, c'est des données climatiques qui concernent l'atmosphère, donc par exemple typiquement la température, les précipitations. Mais là, les questions auxquelles on veut répondre avec Klimsto, c'est l'enneigement.
Et on sait que c'est très difficile. Enfin, d'après ce que j'ai compris, même pour les prévisions, par exemple, qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours sur le nord de la France, on nous disait que les prévisions sur la neige étaient très compliquées parce que on n'est pas encore au point réellement. Enfin, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup d'informations sur la pluie, mais la neige surprend encore.
Oui, bah la neige a beaucoup de mystères, hein, donc c'est pour ça qu'on y travaille. C'est un matériau absolument magique, donc on ne connaît pas tout. Donc en particulier, il y a des phénomènes comme le tassement, la percolation d'eau liquide, la vitesse de fonte, ou tout ce qui est lié aux propriétés microphysiques des grains de neige qui sont très intéressantes et essentielles à connaître pour prévoir un risque d'avalanche, par exemple, ce que Météo France fait. Mais ça reste assez compliqué, donc bien sûr. Et après, il ne faut pas mélanger non plus ce qu'on a l'habitude d'expliquer entre le climat et la météo. Donc quand on parle de prévision à quelques jours, c'est une prévision
météo,
donc déterministe qui va essayer de dire je sais pas, que demain à Montpellier vous allez avoir à 10h du matin 2 degrés par exemple. Quand on fait des projections, on s'entaille sur le climat qui est, si vous voulez, la statistique de la météo à long terme, et donc dans ce cas-là on ne sera pas capable de dire que à Montpellier dans 2035 il va faire moins 2 degrés le 7 janvier au matin. On va parler de tendance, et donc on sera capable de dire que par rapport à la période historique ou la période actuelle, la période de 2030, pas l'année 2030 mais la période climatique centrée autour de 2030 sera par exemple de 1 degré plus chaude par rapport à celle d'aujourd'hui.
Alors, je vais vous interrompre un tout petit peu parce que je crois qu'on a compris que, de toute façon, vous travaillez sur les prévisions. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais là, il nous reste à peu près 5 minutes ensemble. Est-ce qu'on peut parler de la manière dont vous travaillez, par exemple, sur la formation des élus? Comment, moi, je trouve... Enfin, c'est une impression média... Mais on a vraiment l'impression que les élus ne veulent pas regarder les problèmes en face et font du déni. Ils continuent bien. Alors, bien sûr, ils ont la responsabilité économique, les problèmes des emplois gérés dans l'immédiat. On s'en aperçoit encore une fois avec la crise de l'agriculture. Mais est-ce que y a... comment faites-vous pour, en même temps, les amener à travailler sur du long terme ?
Ça, c'est une excellente question et je pense qu'on s'améliore toujours, mais en étant scientifique à la base, on n'a pas, on maîtrise pas encore tous les éléments de communication peut-être par rapport à ça.
Donc, et pourtant, vous savez qu'on dit maintenant les scientifiques donnent les réponses et c'est les élus qui décident. Alors, ça va peut-être un peu vite là.
Oui, bah écoutez, bah nous, on est beaucoup, beaucoup sur le terrain parce que les élus ou les exploitants, parfois même les départements ou les régions qui commentent les études, bah, n'ont pas toutes les clés d'interprétation et n'ont pas forcément les bases scientifiques pour tout comprendre. Donc nous, on se doit de tout présenter, d'expliquer de la façon la plus claire possible les résultats. Et donc, il y a tout un accompagnement qu'on a mis en place pour vulgariser les résultats, les présenter, tout en gardant un petit peu cet aspect neutre, scientifique, sans parti pris. Ça veut dire que nous, on présente un résultat. Après, on ne maîtrise pas tous les éléments. Par exemple, on n'a pas dans nos études l'interprétation des résultats économiques, financiers ou environnementaux, qui sont très importants. Donc nous, on va dire, on fait une étude climatique qui est importante, mais qui doit être complétée par d'autres sources d'informations pour savoir quel est le bon choix à faire. Et ensuite, ça n'empêche pas, dans tous les cas, d'avoir des biais d'interprétation qui peuvent exister. Alors nous, on a bien sûr à faire souvent avec les élus. Il y en a qui sont très ouverts et qui écoutent très bien et qui ont le bon discours en phase avec ce qu'on voit dans les résultats. Bah, il y en a d'autres qui essaient bien sûr de lire
innovent,
dans les résultats.
Et ils innovent, les gens, par exemple, on a vu sur la montée des eaux, nous, sur le littoral méditerranéen, pareil, des gens qui écoutent, comme vous venez de le dire, et qui, du coup, innovent, enfin, prennent des initiatives.
Oui, on a des cas, un cas qu'on peut citer, parce qu'il a été très médiatisé dans les dernières années, c'est le cas de la station de Métabier, dans le Jura, qui est l'une des premières stations étudiées avec Kingston en 2019-2020. Et la station de Métabier a fait ce choix de se dire, avec les élus et l'exploitant, tout le monde d'accord, qu'à partir de 2040 ou par là, la station doit être économiquement indépendante du ski. Donc les investissements, à partir de maintenant, on les fait plus sur le ski va continuer encore quelques années, mais tout ce que le ski fait gagner, entre guillemets, va être investi sur autre chose pour être après indépendant du ski.
Et alors, l'autre chose, c'est quoi alors?
Alors, du coup, par contre, de l'autre côté du spectre, on va dire, on peut se retrouver face à des élus, par exemple, qui essayent, dans les résultats de Climsto, de ne garder que la partie qui leur convient. Comme on a tout un tas d'indicateurs climatiques, de visuels, des résultats, il est très simple d'extraire une image ou une phrase qui correspond à ce qu'on veut dire et de cacher sous le tapis, entre guillemets, toute la partie qui est un peu moins favorable par rapport à leur choix déjà a priori. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Nous, on délivre l'intégralité de l'étude.
Après, signaler quand même.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, comment ils gèrent leur communication à leur niveau, nous, on n'a pas la main, c'est à eux de voir. Et je peux vous citer, sans donner de nom, mais un cas assez emblématique. Donc imaginez une station pour laquelle, dans 30 ans, il n'y aura plus de neige, ou quasiment plus de neige naturelle. Et par contre, vu les conditions de froid en particulier qui peuvent rester, une piste en question va rester viable pendant une durée assez longue, mais grâce à la neige de culture. Donc en gros, vous vous retrouvez avec la bande blanche, enneigée artificiellement, dans un paysage qui ne sera pas hivernal, parce qu'il n'y aura quasiment pas de neige autour. Donc face à ce type de résultat, neutre, on va dire, clair, il n'y a pas trop de débat sur le fait que ce soit comme ça, et ben, on peut avoir en effet deux types de réactions. Donc si on est, disons, d'un côté de la salle, on va dire, là, ça n'a pas de sens, parce qu'on va forcer la main à la nature, on va mettre de la neige alors qu'il n'y en aura pas. Il vaudrait mieux s'adapter tout de suite, faire autre chose pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Et ça, ce serait tout à fait justifié. De l'autre côté de la salle, on n'a pas contre les gens qui disent, bah, très bien, là, on va quand même garantir du ski grâce à l'agriculture. Si on ne le fait pas, on n'aura pas les emplois qui vont avec. Donc, si le modèle nous dit qu'on fera de l'agriculture, bah, on fera de l'agriculture et tant pis si on n'a pas de neige naturelle à côté. Donc ça veut dire que Clipstone ne coupe pas ce type de débat. Il alimente avec des informations, c'est de l'aide à la décision. Mais le même résultat, on peut, si on veut, le tirer des deux côtés en justifiant un choix dans un sens ou dans l'autre. Mais nous, sur ça, on n'a pas la main.
Mais peut-être que d'ici quelques années, enfin, pour l'instant, on est presque au début de vos études. Enfin, on n'est pas au début de vos études, mais vous avez encore énormément de connaissances à approfondir, etc., avant de donner des conseils. Et puis, il va y avoir un moment, très certainement, d'ici 2030 ou 2050, puisque c'est un petit peu les limites qu'on se donne, où vous allez pouvoir peut-être donner d'autres conseils sur la résilience.
Absolument, absolument. Et les modèles évoluent aussi, donc c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, entre guillemets. Ça veut dire que c'est en évolution, on s'améliore en vulgarisation, on s'améliore au niveau des modèles, en termes de discours qu'on peut faire, que ce soit plus clair possible. Donc c'est des choses qui continuent, qui évoluent, et donc on apprend presque autant par rapport à ce qu'on apprend nous, aux élus, aux utilisateurs. Mais le conseil que je peux donner, si je peux me permettre, hein, en ayant piloté l'équipe de Climsnow pendant 3-4 ans désormais, avec ses presque 200 stations étudiées, c'est d'essayer de voir un petit peu au cas par cas, parce qu'on a souvent tendance à vouloir généraliser, de se dire à partir de 2500 mètres, c'est bon, et à moins de ça, c'est fini. Trouver des choses faciles à dire ou des chiffres faciles à proposer. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'en étudiant dans le détail, station par station, chaque endroit a un climat qui n'est pas exactement le même. Les expositions, les altitudes, les pentes auxquelles on a affaire, ce n'est pas les mêmes. Les équipements de les stations sont équipés, ne sont pas les mêmes non plus. Donc c'est seulement avec une étude spécifique qu'on arrive à donner des informations pertinentes. Et dès qu'on essaie de généraliser, oui, on peut avoir des tendances globales, bien sûr, mais c'est très compliqué. Et donc, nous, on donnera l'information à faire passer, c'est que on ne peut pas comparer de stations globalement, parce qu'elles ne seront pas identiques par rapport à tous ces paramètres que je viens de citer.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour cette conclusion qui est sans doute que nous partageons beaucoup. Nous n'avons qu'une terre. Il faut certes du global, mais il faut aussi revenir bien sûr aux réalités locales. Merci à vous de nous avoir fait part de tout cela. On n'a pas eu le temps finalement de trop parler de votre laboratoire de recherche, mais vous nous en avez parlé longuement, à bientôt, sans doute.
Je suis disponible pour une prochaine fois pour continuer les échanges.
Voilà, exactement, exactement. À bientôt donc, et au revoir.
Bonne journée, à bientôt, au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.